explorer de nouveaux mondes étranges.
La Terre est là. La Terre est proche.
Descendez la voie !
Le temps d'un bivouac !
Vous vous souvenez peut-être de ces frises chronologiques à l'école sur lesquelles figuraient les grands noms des explorateurs. Le premier d'entre eux, celui situé le plus à gauche sur la frise, avant Magellan, avant Vasco de Gama, avant Christophe Colomb, c'est celui de Marco Polo. Ce Vénitien a effectué un immense périple au XIIIe siècle. Il est allé jusqu'en Chine par voie terrestre en passant par la Perse, l'Afghanistan et le Pamir, puis est revenu par la mer via Sumatra, Ceylan et le golfe Persique. Un voyage de 24 ans. Le parcours deviendra le symbole de la mythique route de la soie au cœur des échanges entre Orient et Occident. Mais à quoi pouvait ressembler ce voyage dans des contrées lointaines à cette époque? Quelle représentation du monde un Européen du XIIIe siècle pouvait-il avoir? C'est ce que nous allons découvrir avec Louis-Marie Blanchard, auteur avec sa fille Élise Blanchard d'un très beau livre intitulé Marco Polo, l'incroyable voyage aux éditions Paulsen. Lui-même grand voyageur, Louis-Marie Blanchard a traversé certaines régions que Marco Polo avait parcourues en son temps. Il va nous emmener sur les pas de ce voyageur devenu mythique et nous dire ce que l'on sait aujourd'hui de son incroyable voyage. Cette émission a été préparée par Hugo Struna, avec à la réalisation Anne-Sophie Ladonne et Étienne Bertin, et à la technique Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des diverses régions du monde et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire. Car vous y trouverez toutes les grandissimes merveilles et diversités de la grande et la petite Arménie, de la Perse, de la Turquie, des Tartares et de l'Inde et de maintes autres provinces de l'Asie moyenne et d'une partie de l'Europe quand on marche à la rencontre du vent grec, du Levant et de la Tramontane. C'est ainsi que notre livre vous les comptera, en clair et bon ordre, tout comme Messire Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, les décrit parce qu'il les a vus de ses propres yeux.
Ainsi commence le devisement du monde. Il faut comprendre la description du monde. Le livre prendra ensuite le titre de Livre des Merveilles. C'est le seul récit que nous a laissé Marco Polo. Dans quelles circonstances a-t-il été écrit exactement, Louis-Marie Blanchard ?
Et des circonstances un peu spéciales, puisqu'il était prisonnier des Génois. À l'époque, Venise et Gênes se faisaient la guerre très souvent. Et donc Marco Polo, à son retour de voyage, a été armé une galère pour aller défendre les intérêts de Venise. Et il est dans une bataille, il a été fait prisonnier et il s'est retrouvé donc pendant quelques années à Gênes. Et là, il a rencontré un écrivain, Rusticello de Pise, un pisan qui lui aussi était prisonnier et à qui il a confié ses souvenirs de voyage et probablement ses notes.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre alors?
Alors dans ce livre, on trouve une description assez précise de son voyage, mais pas dans le sens des récits de voyage modernes. C'est-à-dire, il vous raconte pas où il a dormi, comment, etc., les difficultés de la route, etc. Ça, c'est il passe là-dessus. Mmh. Il fait plutôt une description assez précise des endroits où il passe, de ce qu'on y vend, de ce qu'on peut y acheter, comment les gens vivent, etc. Donc c'est plus une sorte de voyage encyclopédique qu'un récit de voyage au sens moderne du terme. Mmh.
Alors, il faut quand même faire la part des choses aussi dans ce récit, parce qu'il y a des choses qui ont l'air d'avoir été vues, en tout cas qui existent, qui sont réelles, puis il y a des choses plus inventées, plus fantaisistes.
Alors, il dit lui-même qu'il y a certaines choses qu'il a entendues, mais pas vues, mais qui sont dignes de foi. Ouais. Et puis, alors, il faut bien voir que c'est pas lui qui a écrit le livre, c'est un écrivain de cour, et donc cet écrivain de cour, rien ne l'a empêché de rajouter un certain nombre de choses que peut-être Marco Polo lui avait décrites comme des légendes, mais que lui, il a pu faire passer pour des choses vraies.
Oui, Rusticello de Pise, que vous citiez, qui est d'ailleurs coutumier de ce genre de récits. Lui-même avait écrit de nombreux récits très, très fantasmagoriques de voyages avant de d'écrire avec Marco Polo.
Alors en fait, c'est un spécialiste de récits du style le prince qui va voir une princesse, qui tombe sur un dragon, etc. Vous voyez. Donc le merveilleux, pour lui, c'était du quotidien.
Ouais. Au moment où le livre sort, ça n'est pas forcément un grand succès. Ça passe un peu inaperçu au tout début.
C'est pas que ça passe inaperçu, mais d'abord, les livres, à l'époque, c'était des manuscrits. Et donc, il a fallu du temps pour que ces manuscrits soient recopiés en suffisamment grand nombre. Mmh. On en compte quand même 150 manuscrits à l'époque. Hein, donc, c'est pour l'époque, c'est quand même un best-seller. Un best-seller qui va mettre un petit peu de temps à s'imposer, mais qui va s'imposer notamment auprès des Francs.
Ouais. Vous avez raison de remettre ça dans le contexte. Évidemment, pour l'époque, c'était important. La gloire et la reconnaissance mondiale et mythique viendront quand même plus tard, après la mort de Marco Polo. Son récit aura quand même une influence sur ses illustres successeurs. Hein. Christophe Colomb, quand il part, il a un livre, il a ce livre.
On a le livre que possédait Christophe Colomb et qui est soigneusement annoté. Effectivement, Christophe Colomb s'est servi du récit de Marco Polo pour essayer d'aller trouver la Chine et à la place, il a trouvé l'Amérique.
Ouais. Alors, à son époque, il n'est pas le premier Marco Polo, il n'est pas le premier Européen à aller en Chine. D'autres l'ont fait avant lui.
Bien sûr, notamment deux illustres voyageurs, Jean Duplan Carpin, qui l'a précédé, qui avait été envoyé par le pape. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que depuis la Chine jusqu'à la Hongrie, c'était les Mongols qui possédaient tout. Et les chrétiens avaient l'idée, les francs avaient l'idée de faire une alliance avec les Mongols contre les Sarrasins. Mmh. Et ils ont envoyé un missionnaire. Et puis un deuxième qui s'appelait Guillaume de Rubruck, lui envoyé par Saint-Louis, toujours dans l'idée des croisades et de faire une alliance avec les Mongols contre les Sarrasins. Ça n'a jamais fonctionné, mais l'idée était là et Rubruck nous a laissé un récit de voyage extraordinaire de ces 3 ans à travers l'Asie.
Ouais. Et puis le père et l'oncle de Marco Polo, eux aussi, s'étaient rendus avant lui jusqu'en Chine.
Bien sûr, il faut voir que Marco Polo, il est tombé dans ce voyage sans presque le vouloir. Et quand son père est rentré à Venise après 10 ans de voyage jusqu'en Chine, Marco Polo ne connaissait pas son père. Son père était parti, il avait 4 ou 5 ans.
Ouais.
Et donc le père a dit « on repart là-bas ». Avec l'oncle et on t'emmène.
Ouais.
Et donc à 17 ans il repart, il sait pas pour combien de temps, il sait pas que le voyage va durer 25 ans.
Mais vous allez un peu vite déjà, l'oncle et le père, pourquoi sont-ils allés eux en Chine en leur temps?
Alors le père et l'oncle, c'est des bons commerçants vénitiens spécialisés dans les pierres précieuses. Et donc ils ont commencé par faire une étape à Constantinople, où ils avaient un comptoir de famille. Et puis les Génois ont commencé à prendre la main sur Constantinople. À ce moment-là, ils se sont projetés en Crimée, sur Soldaïa, où ils avaient un autre comptoir. Et en Crimée, on leur a dit, mais il y a un prince mongol là-haut, du côté des steppes sibériennes, qui pourrait vous acheter des pierres précieuses, qui a beaucoup d'argent, parce qu'il y a des mines de sel.
C'est qui ce prince mongol?
Le nom m'échappe, mais toujours est-il que ce prince mongol, ils sont allés le voir. Et puis, de là, ils ont souhaité rentrer à Venise, mais il y avait des guerres entre princes mongols, et ils ont dû se projeter sur Boukhara, en Asie centrale.
Mmh.
D'Asie centrale, ils ont rencontré une ambassade, donc du grand Khan des Mongols, Kubilai Khan. Et là, ils ont décidé de suivre cette ambassade et ils se sont retrouvés à la cour du Khan mongol, Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan.
Il est important, parce que là, comme il y a beaucoup de noms dans toute cette fresque, il est important à retenir celui de Kubilai Khan, empereur mongol, très puissant à l'époque, avec un royaume qui s'étend bien au-delà des frontières actuelles de la Mongolie. Hein. Là, on est en Chine, il possède la moitié du monde,
cet empereur. Tiers du monde connu, hein,
ouais.
Puisqu'il possède une bonne partie de l'Asie du Sud-Est, il possède la Chine, la Mongolie, l'Asie centrale, la Russie, ça va jusqu'en Pologne et jusqu'en Hongrie, c'est vraiment et la Perse, donc c'est un immense empire et avec ce qu'on appelle la Pax Mongolica qui va permettre cette période de paix mongole aux Vénitiens de se rendre jusqu'en Chine.
Ce qui laisse aussi clairement comprendre pourquoi, quand le père et l'oncle de Marco Polo sont convoqués par cet empereur, il est des invitations qu'on ne refuse pas. Ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. Hein. Il les convoque, il envoie ses sbires et ils sont évidemment obligés d'y aller.
Oui, puis... ce qu'on va dire, c'est que Kubilai était friand de gens lettrés qui ne soient pas chinois, parce que les Mongols venaient de conquérir la Chine, ils avaient une grande méfiance vis-à-vis des mandarins lettrés chinois, et Kubilai s'appuyait sur un certain nombre de lettrés qui étaient, par exemple, des Ouïghours, des Turco-Mongols, ou des gens des Sarrasins, etc. Et donc, ça ne gênait pas du tout de s'adresser à des Occidentaux et d'employer des Occidentaux.
C'est ainsi que Niccolò Polo, le père de Marco Marco Polo et Matteo Polo, l'oncle de Marco Polo, vont être introduits à la cour de ce grand empereur Kubilai Khan. Ils vont pouvoir, alors on comprend que le voyage dure un petit peu avec toutes ces, tous ces rebondissements et toutes ces rencontres. Ils vont revenir ensuite à Venise et évidemment ils auront avec eux des cargaisons et des cargaisons de richesses.
De l'or, de l'ivoire, du jade. Et quelle finesse d'exécution, ces joyaux, ces pierres précieuses. Regardez cela. Mais regardez ces trésors, messire, vous n'avez jamais rien vu de pareil.
D'où viennent donc toutes ces merveilles, Niccolò Polo?
Elles me viennent du bout du monde, c'est un persan qui les a apportées.
Mais je n'ai rien vu de tel quand j'étais en Perse.
De plus loin que la Perse.
Les Indes,
d'un pays encore plus lointain que les Indes orientales, messire. Ces trésors viennent de la Chine, de l'empire de Cathay.
De si loin que ça,
le plus ancien empire de la Terre et le plus riche.
Est-ce loin d'ici, la Chine?
Plus loin encore que vous ne pensez, mon cher cousin. Il faut traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
À quoi bon discourir si l'on ne peut aller en Chine?
Il y a un homme néanmoins à Venise qui aurait assez d'audace pour entreprendre ce voyage dangereux et assez de chance pour en revenir.
Qui donc?
Mon fils Marco Polo.
Et l'envie de voyage et de faire des affaires n'a pas quitté Niccolò Polo ni Matteo Polo, mais cette fois-ci, ils veulent retourner avec leur fils Marco Polo. Alors, il faut aussi se mettre dans la tête de Marco Polo, qui a vu partir son père tout jeune, qui le pensait mort, parce qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas de nouvelles. Hein, quand les gens disparaissaient, voilà, il part pour 10 ans et il le voit revenir alors que lui a 15 ans. Visiblement, il ne lui en veut pas du tout. Au contraire, il est tout à fait partant pour cette fois-ci être de la partie et prendre la route avec lui.
Bien sûr, à l'époque, je pense que tous les jeunes de Venise, fils de commerçants, ne rêvaient qu'une chose, c'était de partir le plus loin possible, faire des affaires. Et donc, quand on lui propose de repartir jusqu'en Extrême-Orient, bah ça ne peut que le tenter. Mmh. Et donc, le voyage va commencer d'abord au Proche-Orient, et ils vont se rendre chez les croisés, qui possèdent donc des forteresses sur les bords de la Méditerranée.
Mmh. Et alors, il part, vous dites, comme marchand. Il part pas uniquement comme marchand, il a aussi été un peu missionné par le pape Grégoire X. Ils deviennent, bon d'accord, des marchands, mais aussi un peu des ambassadeurs, notamment Kubilai, d'ailleurs, en les laissant partir. Kubilai, donc cet empereur immense de Mongolie, les avait laissés partir en leur disant « Vous reviendrez avec une centaine de savants chrétiens de votre contrée. »
Il faut bien voir que Kubilai, il se préservait en protégeant toutes les religions. Et qu'il y avait un certain nombre de gens dans son entourage, notamment apparemment sa mère, qui était chrétienne. Tout ça parce que des chrétiens nestoriens avaient évangélisé l'Asie centrale, puis la Mongolie, des chrétiens schismatiques en Occident, mais qui avaient évangélisé un grand nombre de communautés. Et donc, ça n'est pas étonnant que Kubilai lui ait demandé de ramener avec lui, que les polos ramènent avec eux des missionnaires chrétiens.
Oui, donc marchand et ambassadeur. Il s'occupe aussi de relations internationales, les polos, dans cette histoire. Voilà comment le jeune Marco Polo se retrouve embarqué dans un voyage qui va durer 24 ans et dont il n'imagine pas les surprises qu'il lui réserve. Show love like there's nothing left to lose. I'm broken, struggling with these blues. Take my love and send it into space. Twist the knife into my back and run. Charlotte, you're in love with me.
either, but sometimes it's just standing still. Stops moving like a manga will. It don't amount to much, blazing on an ounce of dust. Been there, done that, lost a bloody t-shirt. I face neglect and now my teeth hurt. I'm happy for the blue skies in the morning. Happy for the breath inside my lungs and for these legs that keep me walking. Happy that my heart is still beating. I'm happy that I'm finally eating. I'm happy that I got to speak to you this evening. I'm happy that you're happy too. I'm working hard. I found a lot of spirit in this lonely yard. But I'm happy that I'm finding my feet. People think I'm strong, but I'll admit that I'm weak. Cause in dark days you need to comfort yourself. You need to be kind, choose love, look after your health. I guess I got it wrong, a couple twists and turns ago. Sometimes it turns out you just need to learn to grow. I like the cherry blossom falling from these spring trees. It gives me air to breathe, it gave me love to choose. And I'm serious about my dreams. To live good, to live clean and to be free. I guess it's time to let you go now. I watch you fly, but I still catch you when you float down.
Come and get it, c'était Slumb et Siwi Jones sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Marco Polo, Marco Polo, charme étrange, douce ivresse de tes yeux noirs, si railleurs. Marco Polo, Marco Polo.
Pour quelle contrée vais-je partir cette fois, le sais-tu?
Votre père a parlé de la Chine.
La Chine?
Oui, le voyage est dangereux. Vous pourriez bien y rester.
Ouais. Cette idée a l'air de te réjouir.
Oui, je ne sais pas cacher mes sentiments, Seigneur. Je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur. La vérité, c'est que je suis là. Vous cherchez toutes les nuits le long des canaux de Venise. Et je serais bien content si vous restiez en Chine pendant plusieurs années. Très content. Mais oui. Très content.
Eh bien, il va y rester plusieurs années en Chine, Marco Polo, au-delà des espérances de ce monsieur. Louis-Marie Blanchard, auteur du livre Marco Polo, l'incroyable voyage aux éditions Paulsen, est notre invité. Quand le jeune Marco Polo embarque à bord du bateau avec son père et son oncle, nous sommes en 1271. Il a quel âge ?
Mais il a 17 ans.
Ouais. Alors, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec ce père qu'il connaît très peu, hein, sur ce bateau. On l'a dit, il l'a quitté à 5 ans, il l'a revu arriver à 15 ans. Ça commence en bateau, jusqu'où vont-ils?
Alors, dans un premier temps, ils vont traverser la Méditerranée, ils vont s'en aller sur les forteresses croisées donc de la rive orientale de la Méditerranée, et ils vont faire le petit tour des pèlerins habituels, parce que Kubilai a demandé expressément que les polos rapportent de l'huile ayant éclairé la tombe du Christ. Donc, ça posait pas de problème, parce qu'à l'époque, Venise était une sorte de tour opérateur qui, deux fois par an, envoyait des cargaisons de pèlerins visiter les lieux saints avec escorte, voyage tout compris, restauration, hébergement, et donc protection même des sarrasins.
Ouais. On était au XIIIe siècle, mais déjà les tours opérateurs et le tourisme marchaient bien. En tout cas, les pèlerins se rendaient en masse à Jérusalem. Et Kubilai, qui avait demandé cette huile sainte, c'est donc cet empereur mongol qui les attend de pied ferme en Chine. Et qui attend leur retour, qui a déjà fait connaissance avec le père et l'oncle de Marco Polo. Alors ils traversent l'Arménie, et ils vont aux frontières de la Géorgie aussi. Ils découvrent une étonnante substance qui l'intrigue en Géorgie.
Et oui, parce que là-bas, donc que ce soit de la Géorgie jusqu'en Irak, on employait fréquemment du pétrole, d'une sorte de bitume en fait que l'on trouvait au ras du sol, pour même servir de ciment entre les briques de pierre les briques de terre crue. Et donc moi-même quand je suis allé à Our, j'ai été surpris, il y avait des bâtiments de plusieurs étages qui étaient cimentés littéralement avec du bitume, du pétrole. Ouais. Et donc ça existait déjà à l'époque de Marco Polo.
Il parle d'une fontaine d'où sourd une liqueur telle qu'huile en grande abondance, point n'est bonne à manger, mais elle est bonne à brûler. Voilà, il découvre le pétrole, Marco Polo au 13e siècle. Puis après et évidemment, tous ces pays qu'il traverse, c'est avec sa culture, c'est avec ses croyances, c'est avec, évidemment, tout ce qui va avec son époque. Alors, il prétend se rendre sur les tombes présumées des rois mages, par exemple, en Perse.
Oui, mais ça fait partie des nombreuses légendes qui émaillent le récit. On va avoir aussi la tombe de Saint Thomas en Inde. On va avoir l'arbre sec qui sépare le monde civilisé du monde sauvage, Gog et Magog. Il faut bien voir qu'à l'époque, on se basait beaucoup sur les livres saints pour donner des notions géographiques aux gens. Donc, c'est pas surprenant du tout que ce genre de légendes bibliques apparaissent dans le récit de Marco Polo.
Il traverse la Perse, l'Afghanistan. En fait, il suit la route de la soie, hein, tout simplement. Comment il voyage, en fait?
Alors, il voyage de différentes manières. Globalement, il voyage à cheval. Dans les contrées les plus difficiles, on voyage en chariot tiré par des bœufs ou tiré par des chameaux. Mm-hmm. Les voyages sont très très longs entre les oasis. Hein. Quand on doit traverser des déserts, il peut arriver que l'on fasse 15 jours, 3 semaines d'un oasis à l'autre. Ouais. Et là, vraiment, les gens dorment dans ou sous les chariots. Ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent. Ils vont de point d'eau en point d'eau avec de l'eau plus ou moins bonne à boire, mmh. Et donc on attrape facilement des maladies, on est fatigué, et puis il y a les rencontres, les mauvaises rencontres.
Ouais. Il va d'ailleurs attraper une maladie, il va être malade pendant un an, et il va rester
cloué. Oui, quand ils vont arriver au pied du Pamir, Marco va être très sérieusement malade, il nous dit pas de quoi, est-ce que c'est le mal des montagnes, est-ce que c'est autre chose, toujours est-il, qu'ils sont bloqués pendant un certain nombre de mois, ouais, avant que Marco ne reprenne une bonne santé, qu'il puisse franchir les cols du Pamir. Ouais. Donc là, on est devant des montagnes qui font pratiquement 7000 mètres d'altitude avec des cols à 4000, 5000, et ils vont franchir le couloir de Waran et arriver dans les premières oasis qui bordent la Chine, donc de l'ouest.
Alors, il a à faire face, hein, vous le disiez, il a à faire face à de nombreux dangers. Déjà, il y a les mauvaises rencontres possibles, et aussi les bêtes sauvages, parfois sur son trajet, qui peuvent l'attendre, des climats éprouvants. Comment parvient-il à se sortir de tous ces dangers potentiels?
Ben, en fait, à l'époque, on voyage en caravane, on voyage pas seul, on voyage avec des groupements de chameaux, de chevaux, de yaks, et donc ils s'incorporent à des caravanes commerciales. En plus, là, ils font partie d'une ambassade qui s'en va vers la cour de Kubilai, donc ils sont relativement protégés. Ouais. Mais c'est toujours la même façon de voyager. Vous avez les caravanes qui suivent le chemin, et de chaque côté, à 500 mètres, à 1 km, vous avez des cavaliers qui assurent la protection de la caravane.
Alors la caravane est protégée, mais ça n'empêche pas de traverser des terrains difficiles dans des conditions éprouvantes, comme ici, dans le désert du Taklamakan.
Ce désert s'étend si loin qu'on dit qu'il faut un an pour le traverser à cheval. Et là où il est le plus étroit, il faut tout de même compter un mois. Ce lieu a je ne sais quoi de diabolique. La nuit, on entend parfois les voix des esprits. Elles emplissent l'air de musique et de roulements de tambours qui font presque perdre la raison aux voyageurs. Parfois, les esprits s'adressent directement à vous. Ils vous appellent. Souvent, les voyageurs sombrent dans la folie et disparaissent à jamais.
Le mystère et l'ésotérisme n'est quand même jamais très loin, hein, souvent dans les récits de Marco Polo, Louis-Marie Blanchard.
Voilà, en l'occurrence, pour ce qui concerne les dunes, c'est une histoire absolument vraie. J'ai pu constater moi-même sur les grandes dunes de Mongolie, qui font donc 200-300 mètres de hauteur, que le sable glisse d'une certaine façon, et ça provoque comme une petite sonnerie, comme une petite musique, vous voyez. Mmh. Et c'est ça ce qu'on peut appeler le chant des sirènes. Ouais. Il y a effectivement des dunes qui chantent dans le Taklamakan, ouais, et en Mongolie.
Il y en a même qui les ont enregistrées, ces dunes qui chantent. C'est plus qu'une petite musique, hein, c'est un vrombissement infrabasse que l'on entend là, hein, c'est le sable en dégringolant des dunes qui produit, en entrant en résonance, ce son absolument impressionnant. On imagine, à l'époque, il l'a décrit, le chant des dunes, hein, comme quoi il y a quand même des détails qu'il n'a pas pu inventer, ou alors on lui avait raconté, mais c'est un des premiers à décrire ce chant des dunes, Marco Polo.
Ah oui, il a été un des premiers à décrire beaucoup de choses. Mmh. On lui a beaucoup reproché, par contre, de pas avoir bien décrit la muraille de Chine, qu'il confond avec le mur d'Alexandre. Mais bon, c'était pas un historien, donc faut se mettre à la place d'un jeune homme de 17 ans qui découvre, mmh, le monde et qui n'a pas toutes les données en main pour raconter l'histoire véridique, oui, depuis l'Antiquité.
Alors il faut quand même évidemment trier, reconstituer ces voyages, parce qu'à côté des descriptions, par exemple comme le chant des dunes qui existe bel et bien, il y a des descriptions, disons, plus extravagantes.
La licorne ne fait pas de mal avec sa corne, mais avec sa langue. Car elle a sur sa langue des épines très longues. Elle a la tête d'un sanglier et elle porte sa tête toujours dirigée vers le sol. Elle séjourne volontiers dans les lacs et les bourbiers. C'est une bête très laide. Elle n'est pas telle qu'on la capture au sein d'une jeune fille vierge, comme nous le disons chez nous. C'est tout le contraire.
Louis-Marie Blanchard, c'est assez savoureux hein, ces récits de licorne, mais c'est vrai qu'il jette un peu le discrédit sur le reste du récit. C'est pas le seul exemple. Il y a comme ça tout au long de son récit qu'il a, rappelons-le, écrit avec un homme qui était habitué de ces récits un peu inventés, un peu poétiques, de ces contes fantastiques. Comment expliquer qu'on trouve des licornes dans le récit de Marco Polo?
Je pense que c'est lié au fameux Adax ou Oryx d'Arabie qui ont des cornes qui peuvent passer pour des cornes de licorne. Mais je crois qu'il faut surtout se garder de ne voir dans le récit de Marco Polo que le merveilleux. En réalité, les deux tiers de l'ouvrage nous donnent des données assez précises sur la manière dont vivaient les gens tout au long des oasis qu'il a fréquentées pendant son voyage et sur ce qu'on y faisait comme commerce. Je rappelle d'ailleurs que Venise donnait l'ordre à ses commerçants de faire des comptes rendus très précis chaque fois qu'ils s'en allaient au loin. Et donc ça c'est vraiment ordinaire pour des commerçants de tenir au jour le jour, et c'est probablement un carnet de voyage, et c'est probablement grâce à ce carnet de voyage que Rusticello de Pise a pu reconstituer le voyage de Marco Polo.
Il doit exister, en tout cas certains le pensent, il doit exister d'autres écrits de Marco Polo qu'on n'a jamais retrouvés, mais on se dit après, pour avoir autant de souvenirs si précis de tout ce qu'il a vu et avoir pu ensuite les partager avec Rusticello de Pise, qui lui a écrit le livre final, il devait avoir des notes, il ne devait pas avoir tout retenu de mémoire.
Ce qui est certain, c'est que le père et l'oncle ont dû faire des carnets assez conséquents, que Marco Polo en ait fait ou pas, il le dit pas, et on les a pas retrouvés, donc ce ne sont que des supputations. Mais ça paraît impossible, il y a tellement de données très précises et chiffrées dans le Livre des Merveilles concernant les populations, les marchandises, etc., que c'est impossible que ce ne soit pas appuyé sur des notes très précises des marchands.
Vous-même, qui êtes allé de nombreuses fois hein, sur ces routes de la soie, qui les connaissait très bien. Est-ce qu'il vous est arrivé de parcourir des lieux par lesquels était passé Marco Polo et de comparer un peu ce que vous voyez au récit de Marco Polo?
Ben notamment dans l'oasis de Kashgar, donc à l'extrême ouest de la Chine, à l'extrême nord-ouest de la Chine. Donc c'est une grande oasis peuplée par des Ouïghours. Et Marco Polo parle très précisément de Kashgar en disant que ce sont de très habiles commerçants. Et c'est vrai que chaque fois que je suis allé à Kashgar, j'ai été vraiment époustouflé par la qualité du commerce, la variété du commerce qui se fait là-bas et la variété des artisans qui encore aujourd'hui travaillent à l'ancienne, sont des potiers, ce sont des maréchaux ferrants, sont des ferronniers, ils travaillent le cuivre, ils travaillent le cuir, ils travaillent la vannerie, ils savent tout faire, quoi. Et ça s'est maintenu jusqu'au jour d'aujourd'hui.
En tout cas, dans notre voyage dans les pas de Marco Polo, nous ne sommes plus très loin de la Chine. Cela fait 4 ans maintenant que Marco Polo voyage. Il a déjà vu bien des choses durant ces 4 années.
Avouez, mon père, que nous avançons assez vite. Et que nous avons rencontré sur notre chemin bien des choses curieuses.
Je ne dis point que les voyages forment la jeunesse. Mais crois-tu que c'est pour ton plaisir que nous t'avons amené ici?
Tu ne feras jamais un commerçant.
C'est possible. Mais ce que vous gagnez à acheter et à vendre n'est rien comparé aux richesses que nous avons entrevues. Ces montagnes de sel, ces ports comblés d'épices, ces écharpes pleines d'or et de pierreries, ces nappes d'huile, ces champs, ces vergers, des tapis d'Ispahan, des cachemires de Perse. Il y a là de quoi fonder un empire.
Je ne vois pas de quelle façon tu t'y prendrais. En tout cas, je te recommande une chose. Si jamais nous sommes reçus par l'empereur, tu te tairas. Tu laisseras parler ton oncle.
Oui, papa.
Les recommandations du père de Marco Polo à son jeune fils. Il a quel âge?
Il arrive à une 20aine d'années maintenant. Ouais. Donc il a pris un petit peu de galon, je suppose, avec son père et son oncle. Il est considéré comme un adulte. Mm-hmm. Il a vu beaucoup de choses. Il a probablement aussi appris déjà, au moins en partie, la langue ouïghour. Ouais. Et donc il est capable de s'exprimer à la cour de Kubilai.
Ouais. C'est-à-dire qu'il a aussi, alors c'était peut-être à l'époque courant, mais c'est assez impressionnant, il apprend à parler de nombreuses langues, Marco Polo. Partout où il passe, il apprend la langue locale.
Probablement des rudiments de langue partout où il passe, mais c'est surtout la langue ouïghour qui était vraiment une langue qui permet... Le ouïghour, c'est une langue turco-mongole, c'est de même souche que le mongol. Donc c'est très facile pour un ouïghour d'apprendre le mongol et pour un mongol d'apprendre le ouïghour. Et il y a de très très nombreux fonctionnaires de la cour de Kubilai qui s'exprimaient en ouïghour. Et donc Marco Polo ayant appris le ouïghour, il était tout à fait à l'aise à la cour de Kubilai.
Alors quand ils arrivent en Chine, avant même de rencontrer Kubilai, ça se passe comment, cette arrivée dans cette immensité?
Ben, normalement, fallait montrer patte blanche, hein, parce que les ambassadeurs étaient coincés à environ 3000 kilomètres de la capitale et ils devaient attendre l'ordre de la cour pour que certains soient choisis pour avoir une entrevue avec Kubilai. Alors, pour eux, la chose était différente puisque Matteo et Niccolo s'étaient déjà rendus à la cour et avaient la fameuse tablette d'or qui leur permettait de passer partout. Donc, eux, ils n'avaient pas à attendre. Donc, on pense que ça s'est fait assez facilement. L'arrivée à la cour, en quelque sorte, Kubilai les attendait.
Oui, alors le voyage est loin d'être terminé. Hein. Marco Polo va rencontrer Kubilai et il restera en Chine longtemps. Pour y faire quoi? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission avec Louis-Marie Blanchard.
Ne reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois? Bourgeons un beau jour la glycine, danse sur le toit. Dis quand refleuriront les coquelicots, vivons tant que voleront les corbeaux. Quand je suis dans tes bras, pétales envolés, les racines du sol s'envolent parfois. Là. J'oserai les roses rouges, l'églantine aussi poussera. Si lentement s'éloignent les corbeaux, dis quand refleuriront les coquelicots. Respirez au fond de l'eau. Dis quand refleuriront les
coquelicots, chanté par Laura Cahen et Yael Naïm sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Place, place, écartez-vous maintenant, que la foule s'écarte.
Par ordre de l'empereur, réjouissez-vous, pavoisez.
Crois-tu qu'on verse l'allégresse dans nos cœurs aussi facilement qu'on pavoise nos fenêtres?
L'empereur attend de vous joie et obéissance, car trois seigneurs étrangers vont entrer dans la ville. Que chacun revête ses plus beaux habits, que ceux qui n'en ont point se peignent le visage et le corps. Le maître de ballet organisera le cortège. En tête viendront les fils et les neveux du grand khan, puis rois et barons, princes et philosophes.
Ça y est, cette fois nous sommes tout près de la rencontre entre les trois Vénitiens, Niccolo Polo, le père de Marco Polo, Matteo Polo, son oncle, et Marco Polo. Les trois s'apprêtent à rencontrer cet empereur Kubilai. Comment s'est passé qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre? Qui, rappelons-le, ce sont des retrouvailles pour le père et l'oncle de Marco Polo, qui avait quitté quelques années plus tôt l'empereur. Pour Marco Polo, c'est la première fois qu'il va rencontrer cet empereur si puissant.
Je pense que Kubilai a été, je dirais pas subjugué, mais intéressé, excité par ce jeune homme d'une vingtaine d'années, que très vite il en a détecté l'intelligence, la vivacité d'esprit, et que pour lui, ça n'a fait ni une ni deux, il s'est dit voilà, trois lettrés, trois types qui connaissent toutes les régions entre l'Occident et l'Orient, ce sont pas des Chinois, je peux leur faire confiance, parce que je rappelle que Kubilai vient de conquérir, il y a 30 ans de guerre entre les Mongols et la Chine, qui se termine par une victoire mongole, mais en aucun cas Kubilai ne peut s'appuyer sur les fonctionnaires chinois qui peuvent le prendre en traîtrise, quoi. Et donc il a besoin de fonctionnaires occidentaux lettrés, et il va se jeter sur les polos, et ils vont lui servir de fonctionnaire.
Oui, c'est bien de rappeler cette ça, c'est-à-dire que Kubilai, il est un peu comme un colonisateur en Chine à ce moment-là, il est là depuis pas très longtemps, et il n'est pas forcément bien vu des Chinois.
Et puis la foire à faire avec les Mongols, parce qu'il y a deux écoles chez les Mongols. Ouais. Il y a l'école de Kubilai et du prince de Perse qui disent il faut qu'on se civilise, il faut pas tuer le mouton, il faut le tondre. On va prendre des impôts tous les ans, mais on va pas détruire nos conquêtes. Et puis il y a d'autres princes mongols, d'autres généraux qui disent non, nous la civilisation ça ne nous intéresse pas. On reste des Mongols, on détruit tout, on met des pâturages, on pille tout. Mmh. Et ce drame entre les Mongols ne cessera jamais pendant les 150 ans de la dynastie Yuan, et ça entraînera des guerres incessante entre princes, entre ceux qui veulent se civiliser et ceux qui ne le veulent pas.
Voilà le contexte dans lequel Marco Polo rencontre donc Kubilai. Alors, il fait une bonne impression à Kubilai, mais quelle impression Kubilai fait-il à Marco Polo ?
Ben, je crois qu'il est lui aussi très impressionné, parce que bon, quand on prend le récit de Guillaume de Rubruck, quelques dizaines d'années auparavant, Guillaume de Rubruck dit « Oh ben les Mongols, ils vivent sous des tentes, ils ont des petits palais, c'est même pas grand comme l'abbaye de Saint-Denis, c'est rien du tout ». Ben non, mais 30 ans plus tard, les palais sont 10 fois grands comme l'abbaye de Saint-Denis, il y a des troupeaux de chevaux blancs, de milliers de juments, il y a un luxe de brocart de soie inimaginable, et on a des villes en Chine qui font plus d'un million d'habitants, alors que Paris n'en fait pas 300 000. Ouais. Et donc, ils sont effectivement très, très impressionnés par tout ce qu'ils voient dès le départ.
C'est-à-dire que Marco Polo est à la fois impressionné par aussi la prestance et le charisme de Kubilai, mais aussi par l'ampleur de son empire. Hein. C'est ce que vous nous dites.
Ben voilà. Ouais. Et très vite, il va en avoir bien plus conscience, puisque Kubilai va le prendre comme conseiller privé et comme messager. En gros, il va être chargé de surveiller la collecte des impôts, il va être chargé de surveiller les menées des généraux mongols qui se comportent pas toujours bien avec les populations, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc très vite, il va avoir les mains dans le cambouis, et ça va durer 20 ans.
Il devient une sorte d'enquêteur messager, ce Marco Polo. Il n'est plus vraiment commerçant à ce moment-là, il n'est plus marchand.
Non, il voyage avec des escortes militaires, il voyage dans d'excellentes conditions, et donc, d'après ce que l'on dit, les termes chinois le désignaient comme « oreille ouverte, bouche fermée ». C'est-à-dire bel et bien un espion au service de Kubilai. Tu écoutes bien, tu ne parles pas, mais tu me rends compte à moi de tout ce que tu verras au retour de mission.
Ouais, on n'a pas forcément cette image-là de Marco Polo, mais pendant une vingtaine d'années, combien vous dites,
Une
vingtaine d'années, c'est un espion à la solde de l'empereur mongol en Chine. Et puis il va aussi un peu se muer en ethnologue avant l'heure, puisqu'il va aussi être très curieux des us et coutumes locales qu'il ne connaît pas, qui sortent complètement de sa culture à lui.
Oui, quand il va arriver dans la ville de Kinshasa, une ville d'un million d'habitants avec des canaux partout, donc là ça peut lui faire penser un petit peu à Venise, mais il se rend compte que devant chaque maison, il y a une petite liste avec qui habite la maison, ce que font les gens, etc. Enfin, tout est très ordonnancé. Il y a une vie de cour extraordinaire, des femmes très très belles, très bien habillées, dans des barques qui mènent une vie de douceur. Enfin bon, on a là une civilisation en fait qui est la civilisation chinoise, tout simplement, qui à l'époque domine et de loin toutes les autres civilisations.
Et cette ville, c'est Kinshasa, qui est actuelle Hangzhou. Et qui est la ville la plus peuplée à l'époque. C'est une ville gigantesque.
La plus grande ville du monde, tous les historiens le disent, il y a plus d'un million d'habitants à l'époque.
Et alors, il est aussi impressionné, parce qu'effectivement, c'est gigantesque, et ils sont en avance sur bien des plans technologiques, d'organisation. Il est aussi impressionné par certaines inventions locales, comme la monnaie papier.
L'Empire mongol est une terre de miracles. Regardez, ça, c'est leur monnaie. On peut payer dans tout l'Empire avec ça. En voyage, c'est extrêmement pratique. C'est très léger et d'une grande valeur.
Messire Marco, ce n'est qu'une feuille de papier. Êtes-vous en train de vous moquer de moi ?
Il faut ces feuilles avec de l'écorce de mûrier. Ils utilisent le libère. C'est entre l'écorce et le bois et le travail selon un procédé spécifique. Quand le papier est prêt, ils prennent du rouge vermillon pour apposer le sceau du souverain. Et si quelqu'un se permet de refuser cet argent, il encourt la peine de mort.
Louis-Marie Blanchard, ils sont en avance dans l'empire mongol de Koulibaï. Et évidemment, Marco Polo, toutes ces innovations, il va être aussi impressionné par la poste. Il se rend compte qu'il y a un système de poste en place.
Il y a un système de relais assez extraordinaire. Ça vient de ce que Koulibaï avait absolument besoin de savoir ce qui se passait dans tout son empire. Et donc, vous aviez des relais très, très, très fiables avec des cavaliers qui chevauchaient 24 heures sur 24 et qui, en quelques jours, étaient capables de rapporter la bonne parole à l'empereur, parce qu'il y avait souvent des problèmes de dissension entre les officiers, les fonctionnaires, des pillages, et donc Koubilaï il avait certainement pas trop de 24 heures dans la journée pour mettre de l'ordre là-dedans.
Oui. Alors il est subjugué par cet empire, par cet empereur, un empereur qui aujourd'hui encore fait la fierté des Mongols.
Les Mongols sont très attachés à ce lieu. C'est d'ici que l'Empire mongol s'est développé et a atteint son apogée. C'est d'ici que notre grand chef Koubilaï a soutenu la culture et l'économie et donné à la Chine ses frontières actuelles. C'est d'ici que les grandes conquêtes sont parties. Aujourd'hui encore, tous les Mongols en sont fiers. Tous, sans exception.
Koubilaï a laissé un souvenir impérissable au peuple qui aujourd'hui vit encore en Mongolie.
Oui, mais alors la Mongolie d'aujourd'hui, c'est tout petit, hein, ça ne fait que trois fois la superficie de la France, puisqu'ils ont perdu une grande partie de leur territoire, puisque donc une partie est actuellement en Russie, l'autre partie en Chine. Et contrairement à ce que l'on croit, il y a même plus de Mongols en Chine qu'en Mongolie même.
Ouais. Mais Marco Polo, est-ce que lui aussi a laissé des traces dans les archives ? Est-ce que les archéologues, les historiens ont retrouvé, puisqu'il a passé 20 ans dans cet empire, est-ce qu'il a laissé des traces de son passage ?
Alors, bon, on en est, je dirais, au niveau chinois, on en est qu'au début des études des annales chinoises, qui sont très importantes. Faut bien voir que la Chine ne s'intéresse vraiment à l'archéologie et son histoire ancienne que depuis peu de temps après la période Mao, où on a fait à peu près table rase du passé, où on a détruit beaucoup de choses. Ceci dit, il y a des archives considérables en Chine, il y a une archéologie considérable. Je vais vous donner un exemple simple. C'est Marco dit, ils ont des bateaux immenses hors de proportion avec les nôtres. Aujourd'hui, on a retrouvé dans la vase, à l'embouchure du Yangtze, des systèmes de gouvernail qui laissent penser que les bateaux faisaient plus de 100 mètres de longueur. C'est-à-dire à peu près 7-8 fois la caravelle de Christophe Colomb. Eh bien, jusque-là, on disait, non, c'est des affabulations. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai et qu'il y avait effectivement des bateaux de plus de 100 mètres de long qui étaient capables de parcourir les mers avec beaucoup d'avance sur la marine occidentale.
Alors là, c'est plutôt des traces archéologiques qui donnent foi à ces récits. Mais des traces de son passage à lui, puisqu'il était espion à la solde de Koubilaï, est-ce qu'on en retrouve à la cour?
On a plusieurs fois des annotations comme quoi un polo a été chargé de mission. Ouais. Mais ça se borne à ça pour l'instant. On n'a pas vraiment de texte complet qui raconterait les épopées de Marco Polo en Chine.
Alors après ces 20 ans passés en Chine, Marco Polo décide de rentrer. Est-ce que déjà Kubilai le laisse partir facilement?
Ben, je pense que ça faisait plusieurs fois que Marco et surtout son oncle et son père demandaient à retourner chez eux, puisque ouais. Eux, ils se faisaient vieux déjà. Ouais. Et Kubilai ne l'entendait pas de cette oreille. Et ils vont avoir une chance inouïe, je crois qu'on peut raconter ça maintenant, une chance inouïe, c'est qu'il faut envoyer une princesse mongole à la cour du prince de Perse, qui est un cousin de Kubilai. On essaie de transporter cette princesse par la route, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des guerres intestines entre Mongols. La princesse est rapatriée en Chine, et là, Marco va se proposer de l'emmener par mer. C'est un marin, comme tout Vénitien, il a déjà voyagé, puisqu'on pense qu'il avait fait des voyages par mer au Vietnam et peut-être jusqu'à Ceylan, et Kubilai va accepter, va dire « Banco, j'affrète des jonques et je vous fais repartir, vous m'emmenez la princesse ». Et ils vont le faire.
C'est donc par la mer que Marco Polo regagnera Venise, donc pas par le même trajet qu'il avait fait.
Pas du tout par le même trajet, donc il va descendre la mer de Chine, il va donc faire une escale assez longue sur l'île de Java, au Sumatra, on ne sait pas très bien, ils vont franchir le détroit de Malacca. Là, il y a déjà eu des gros problèmes d'épidémie, de maladies, et sans doute aussi des attaques de tribus sauvages. Ils vont perdre une bonne partie de leur petite marine, mais malgré ça, ils vont continuer jusqu'aux côtes de Ceylan et de l'Inde, et puis ils vont se retrouver jusqu'à Hormuz, dans le golfe d'Arabie.
Ils vont donc pouvoir convoyer la princesse.
Alors la princesse qui était toute jeune quand ils l'ont réceptionnée, elle avait 18 ans, là elle a probablement une vingtaine d'années, manque de chance, quand ils arrivent à Hormuz, on leur indique que le prince mongol est mort.
Aïe.
Bon, il était bien vieux, donc pas trop de problèmes. Il a un fils, et le fils accepte de prendre pour épouse la princesse Kokachine. Donc voilà les polos délivrés, et se disent maintenant, on va rejoindre très rapidement, sous protection mongole, la Terre Sainte. Sauf qu'on leur dit, ben, il n'y a plus de Terre Sainte. Les Francs ont été jetés dehors, maintenant c'est tout, tout appartient aux Sarrasins. Il faut que vous trouviez une autre solution. L'autre solution, c'est de traverser l'Iran à nouveau et d'aller jusqu'à Tabriz et puis après, éventuellement, de rejoindre les côtes de la mer Noire. On leur dit qu'à Trabzon, le Trébizonde ancien, probablement, il y a un comptoir vénitien qui pourrait les accueillir. Ils vont aller jusqu'à Trabzon en caravane et là, manque de chance, à Trabzon, ce n'est plus les Vénitiens qui ont la main, ce sont les Génois. On leur dit, passez par le petit portique qui est devant vous, mais vous laissez tous vos bagages. Et en quelques minutes, ils vont perdre la totalité, ou presque, de ce qu'ils ont gagné en 20 ans.
Ah oui. Ils sont ruinés en rentrant à...
Ils sont apparemment ruinés, enfin, tous leurs bagages sont pris par les Génois.
Allez, suite et fin de notre bivouac sur les pas de Marco Polo, avec notre invité Louis-Marie Blanchard, dans un instant. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac.
Sur les abords du périphérique, je t'ai aperçu par ma vitre. On aurait dit comme le générique d'un film ricain sans sous-titre. Tu ne m'as même pas demandé où j'allais. On aurait dit que tu t'en foutais.
C'était Baby Lou, Alain Chamfort sur France Inter dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale de cette émission est assurée par Muriel Pérez.
Voici Messire Marco Polo. C'est un noble de Venise. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la naissance d'Adam, le tout premier homme, aucun chrétien, aucun païen, aucun homme de quelque origine que ce soit n'a pu être le témoin d'autant de situations incroyables et merveilleuses que lui. Quant à moi, je suis rusticien de Pise, scribe et poète. Et c'est certainement le choix du Tout-Puissant si un jour ce curieux Vénitien est entré dans ma vie.
Rusticello de Pise, qui, avec Marco Polo, nous laissera ses écrits qui font qu'aujourd'hui, on a une idée du parcours qu'a emprunté Marco Polo. Je suis toujours avec Louis-Marie Blanchard, auteur de Marco Polo, L'incroyable voyage. Vous nous aviez laissé il y a un instant avec ce Marco Polo et son père et son oncle ruinés. On leur prend à Gênes toutes leurs pierres précieuses et toutes leurs cargaisons. Ils sont donc ruinés ?
Ils ont un joker.
Ah.
Ils arrivent péniblement à Venise, et là, ils organisent un banquet. C'est Ramuzio, un historien du XVIe siècle, qui raconte ça. Je pense que c'est quelqu'un d'assez fiable, cet historien. Et il nous dit, voilà, d'une manière imagée, ils organisent ce banquet, et ils ont mis leur vieux manteau de voyage. Et avec un couteau, ils commencent à ouvrir les doublures du manteau, et dans toutes les coutures, dans toutes les poches et tout, tombent des pierres précieuses que leur a donné Kubilai avant de partir. Et donc, c'est avec ces pierres précieuses qu'ils vont pouvoir affréter une galère, repartir en combat contre Gênes, sauf que là, problème, Marco Polo va être fait prisonnier et va se retrouver en prison avec ce fameux Rusticello de Pise, voilà. Cet écrivain de cour qui va faire le récit de voyage de Marco.
Et la boucle est bouclée puisqu'on l'évoquait en début d'émission, ce Rusticello de Pise. Alors, il va vivre vieux, hein, Marco Polo. Sur la fin de sa vie, d'ailleurs, on le traitera un peu de menteur. Ses contemporains ne croiront pas toutes ces histoires qu'il raconte, tous ces voyages. D'ailleurs, Jean Cocteau, en 1955, en parlait sur la RTF.
Les poètes sont crus menteurs, comme on croyait menteur Marco Polo, jusqu'à son dernier souffle. Venise l'appelait le menteur et singeait ses souvenirs par dérision en les traitant de songes. Et il racontait peu. Déjà, Marco Polo, dans la prison de Gênes, se fâchait contre Rusticien, auquel il dictait ses mémoires, parce que le poète y mêlait des contes chevaleresques où les femmes se déguisent en hommes et battent les infidèles. À Venise, Marco Polo s'était enveloppé dans ce grand nuage triste où les âmes solitaires cherchent un refuge contre une société qui les repousse. Mais, en ce qui concerne l'accusation de mensonge, il ne transige pas, il s'acharne avec douceur. Malgré toutes les menaces, il dicte un testament que l'incrédulité du prêtre notaire risque de rendre non valable.
Alors, Louis-Marie Blanchard, Marco Polo, un affabulateur ?
Mais on le surnommait il Milione, celui qui ne parle que de millions à Venise. Toujours est-il que sur son lit de mort, il a dit « Je n'ai pas raconté la moitié de ce que j'ai vu, du moins ». La légende le dit.
Merci Louis-Marie Blanchard. Je rappelle le titre de votre livre pour connaître cet incroyable voyage, Marco Polo, L'incroyable voyage, aux éditions Paul Sen. Et puis votre livre plus récent, hein, sur une autre exploration, Exploration de l'Amérique du Nord, c'est également chez Paul Sen. Merci à vous Louis-Marie Blanchard.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.